C'est l'histoire.
L'histoire.
Avec un grand I.
Quelle histoire ?
Chaque semaine, la fine équipe de l'histoire avec un grand I étudie avec vous un nouvel événement historique.
Pour faire l'histoire, l'histoire avec un grand I, il faut parfois masquer ses intentions et de tout temps, on a cherché à échanger de l'information de façon secrète. Afin qu'une personne ennemie ne puisse pas intercepter un message, on a très vite inventé des techniques de chiffrement. Et c'est justement une grande énigme de chiffrement qui a été résolue le 23 novembre dernier. Une équipe de chercheurs en informatique et en histoire a annoncé avoir déchiffré le contenu de plusieurs lettres de Charles Quint, l'ennemi juré de François Ier et souverain européen le plus puissant de la première moitié du XVIe siècle. Pour étudier avec nous cette histoire secrète, les meilleurs historien des ondes radio. Bonjour Alexandre Bolin.
Bien le bonjour.
Bonjour Thierry Lafleur.
Bonjour.
Bonjour Anne-Marie Chevalet.
Bonjour, bonjour.
L'histoire avec un grand I sur Prune.
Alors, donc pour commencer l'émission, peut-on rappeler qui est Charles Quint ?
Charles Quint qui est le roi d'Espagne au XVIe siècle, roi d'Espagne et même...
Empereur du Saint-Empire.
Empereur du Saint-Empire, qui est clairement la partie dominante de l'Europe à cette époque. C'est un roi...
Le problème, il est aigri.
Il est aigri, voilà. Il est aigri. Et ça, c'est quelqu'un qui en veut toujours plus et qui est jaloux, très jaloux.
Et jaloux de qui ? Jaloux de François Ier. François Ier qui est donc roi du royaume de France à l'époque, donc royaume de France qui ne paye pas de mine, mais qui est un petit royaume comparé au Saint-Empire.
Mais il a la cote, François Ier.
Grosse cote de popularité.
Est-ce que j'ai l'impression de vous voir en studio avec des petits sourires.
Ouais, François Ier, voilà. C'est notre
chouchou.
C'est notre petit préféré.
Je sais pas ce que vous en pensez, Anne-Marie, de François Ier, mais c'est vrai que nous, à l'histoire avec un grand.
Moi, c'est
beaucoup.
Un de mes rois préférés.
Tout le monde aime François Ier.
Qui n'aime pas François Ier ?
Et donc, justement, est-ce qu'il n'y a pas là une forme de jalousie côté Charles Quint qui explique ce côté aigri ?
Totalement.
Il n'est même pas caché. Hein.
Non. Il a le Saint-Empire. Il est considéré comme vraiment le boss de l'Europe au XVIe siècle.
C'était d'ailleurs son surnom.
Le boss de l'Europe. Boss de l'Europe, mais malgré tout, lui, au niveau de sa popularité, c'était pas jojo. Il était détesté, hein, vraiment, de quasiment... Même le royaume d'Espagne, donc...
Tout à fait.
Ses conscrits ne l'aimaient pas.
Alors justement, on parle du royaume d'Espagne. Est-ce qu'on peut faire un petit tour du propriétaire ? Il n'était pas uniquement à régner sur le royaume d'Espagne. Il y en avait beaucoup, d'ailleurs autour du royaume de France, comme par hasard. Est-ce qu'on peut faire vite fait une petite liste des royaumes, empires, domaines ?
Oui, alors c'est vrai que pour situer, parce que nous, le Saint-Empire, on visualise bien, mais le Saint-Empire, c'est à la fois donc l'Espagne, le Portugal, l'Italie, l'Autriche, la Croatie, l'Allemagne, la Macédoine, j'en oublie.
Tous les pays nordiques aussi.
Tous les pays nordiques, toute la Scandinavie, exactement. Les Britanniques, donc toujours seuls, n'étaient pas concernés par le Saint-Empire.
Europe centrale, quoi. Grosse Europe centrale.
D'accord, donc ça fait en fait la majorité de l'Europe qui est sous le règne de
Charles Quint.
Et pourtant, le coco est très aigri, quoi. Alors qu'on pourrait se dire, on en arrive là dans sa carrière, on est bien.
Bah oui, mais le problème, c'est qu'il en voulait toujours plus. Et ce plus, finalement, ce qui lui manque, et ce qui lui manquera toute sa vie, c'est justement cette place qu'a François Ier, cette popularité, c'est le fait d'être aimé. C'est ce que cherche Charles Quint toute sa vie. Et c'est pour ça qu'on disait tout à l'heure que la jalousie n'était pas déguisée, puisqu'il essayait en permanence de faire croire aux gens que François Ier n'était pas celui qu'on pensait, alors que ça n'a jamais marché. Et il envoyait en fait des lettres justement à François Ier, c'est de celle-ci qu'on va parler, pour justement essayer de lui faire dire ce qu'il n'avait pas dit.
Oui, voilà, en fait, il était très aigri, mais il faisait beaucoup de blagues qui ne faisaient rire que lui.
Voilà,
et d'ailleurs, Charles Quint, quelque part, c'est sa personnalité qui a inspiré plus tard les auteurs de Commedia dell'arte et le personnage Harlequin. Qui fait beaucoup de blagues aussi.
Vient de lui.
Un peu gênant, un peu gênant, qu'on n'aime pas beaucoup.
Ouais.
Voilà.
Il est toujours là, mais... Pff.
Donc là, on est clairement sur une stratégie d'aller rabaisser l'autre pour apparaître meilleur, pour apparaître plus fort ou en tout cas plus populaire. Est-ce qu'il a testé simplement d'être plus gentil avec ses concitoyens ?
Oui, mais ça finissait toujours mal.
Le gros problème, c'est qu'il faisait une fixation terrible sur François Ier, en fait. Ses concitoyens auraient pu l'aimer si ses concitoyens aimaient encore plus François Ier. C'est là qu'était le problème. Et on aimait énormément François Ier. en Europe, et pas que en France, au XVIe siècle. Tous les pays, tout le monde aimait François Ier. Je pense qu'on peut en parler, mais la rivalité entre les deux hommes naît au moment où Charles Quint, en 1532, invite François Ier en Espagne, pour, diplomatiquement parlant, juste discuter, faire le point. Évidemment, s'organise un jeu du cochon. C'est ce qu'on fait hein, quand on reçoit les rois de France. C'est vu que c'est un jeu emblématique du royaume de France à cette époque. On fait un jeu du cochon. François Ier bat Charles Quint de manière vraiment à plate couture.
Ouais, mais c'était un très bon cochonneur.
C'était un très bon cochonneur. Il était à tous les postes.
Oui, c'est vrai.
Vraiment, que ce soit. Que ce soit pour au niveau de l'avant ou de l'arrière du cochon, c'était un très très bon cochonneur.
Bonjour.
Et le peuple applaudit la victoire de François Ier et on eut Charles Quint.
Donc là, c'est un peu vraiment un coup de massue pour l'ego de Charles Quint, je suppose. Est-ce qu'il va vouloir se venger ensuite ?
En fait, c'est à partir de là qu'il va commencer à envoyer des lettres à François Ier. Et en fait, des lettres qui... En fait, il va essayer à chaque fois, justement, d'être plus malin que François Ier. Et c'est pour ça, en fait, à chaque fois, ces lettres auront un message codé, un message secret. Mais en fait, personne, et jusqu'à aujourd'hui, jusqu'au 23, ne comprendra ce qu'il veut dire. Enfin, la première lettre que reçoit François Ier, je vous la lis, là, je l'ai là sous les yeux.
Par pitié.
Du cochon, en veux-tu, en voilà, ça t'apprendra peut-être à te faire pousser des aiguilles.
Oui, donc effectivement, c'est difficile de... Donc là, on parle vraiment d'une communication entre les deux personnes les plus puissantes d'Europe. Hein.
Exactement. Donc, Charles Quint envoie cette première lettre, donc lettre qui va être rendue publique par François Ier, parce qu'il ne la comprend pas.
Il a besoin d'aide, en fait. Est-ce que c'est une forme d'appel à projet pour trouver des...
C'est en quelque sorte le premier référendum de l'histoire de France, puisque le roi François Ier, ne comprenant pas du tout le sens de cette lettre, va faire appel à l'opinion publique. Et donc voilà, il s'ensuit tout un débat sur le sens du message.
Qu'a voulu dire Charles Quint ?
Voilà, parce qu'en fait, François Ier, sa première peur, sa première crainte, c'est que ce soit une déclaration de guerre.
Oui.
Et parce que le ton est quand même assez dur.
Ça parle d'aiguille, quand même. Donc c'est
oui, voilà, ça parle d'aiguille, du cochon, en veux-tu, en voilà. Enfin, voilà, donc il y a une peur aussi de François Ier. Il y a tout un pan à ce moment, une théorie qui se met en place, comme quoi... le problème, c'est que juste Charles Quint parle très mal français, alors que non, il parle très bien français, Charles Quint.
Et puis il a des traducteurs, donc en fait, le message était assez clair quand même.
Et en fait, du coup, on l'apprend aujourd'hui, en fait, le message était tout simplement crypté. Mais voilà, à l'époque, et du coup, enfin, on ne sait pas ce qui se passe, et c'est vraiment là-dessus qu'on va se concentrer. Ces lettres, ce qu'elles ont déclenché dans l'histoire de France et dans l'histoire du Saint-Empire.
Et voilà. Je coupe. Cette première lettre fait tellement peur à François Ier qu'il va réunir une armée qui se positionnera sur la frontière entre la France et l'Espagne, qui attendra un mois durant et aucun signe de l'armée espagnole. Donc finalement,
ils sont rentrés.
Ils
sont rentrés chez eux.
Très bien, donc pas de guerre, en tout cas avec cette première lettre. Comment réagit l'opinion publique qui est mise à partie, on va dire, par François Ier pour décoder ce message ? Quelles sont les idées qui ressortent du public pour comprendre le message caché ?
C'est ce que je vous disais, moi, à l'instant, c'est qu'il y a une partie, justement, qui craint que ce soit une déclaration de guerre, et une autre partie qui se fout royalement de cette lettre et de ce roi qui déjà avait une cote de popularité très basse. Mais alors là, ça ne fait qu'accentuer. En fait, tout le monde se dit que Charles Quint est vraiment stupide. Et vraiment jusqu'au bout des ongles.
Ok. Est-ce qu'il va continuer avec d'autres lettres ?
Ah, oui, bien sûr. Oh là là, il va en envoyer des tonnes de lettres.
Ah, oui.
Et en fait, à chaque fois, est-ce que François Ier va les rendre publics de
la
même façon ?
En fait, on l'apprend aujourd'hui, maintenant que le message a été décrypté. Enfin, on ne parlera pas de ça aujourd'hui, parce que c'est de l'actualité, nous on parle d'histoire. Mais en fait, Charles Quint, tout ce temps, attend une réponse de François Ier. François Ier ne répondra jamais, parce qu'il ne comprendra jamais. Mais Charles Quint, tout ce temps, attend une réponse et va répéter les tentatives pour obtenir une réponse de François.
Charles Quint qui...
François Ier. Tu peux l'appeler François.
Tu peux l'appeler François. Charles Quint qui donc envoie multiples lettres à François Ier. On se retrouve juste après la pause musicale. Et nous voilà dans l'histoire avec un grand I, c'était Lettre à France de Michel Polnareff, sorti en 1978 sur son album Coucou me revois loup, ça ne s'invente pas. On s'est quitté en évoquant la quantité de lettres astronomiques que Charles Quint envoie à François Ier. Ça représente combien de lettres ?
Ça représente à peu près 100... alors, je dis à peu près parce que moi je compte 157 lettres. Il y a une 158e qui en fait serait un canular et ne serait pas une lettre de Charles Quint. C'est encore en débat chez les historiens puisque le sceau n'est pas exactement celui
on
de Charles Quint.
Je pense que c'est un enfant qui aurait envoyé la lettre.
Voilà, mais donc 157-158.
157-158 retrouvés parce qu'on sait qu'à la fin des envois, François Ier finissait par brûler les lettres, même sans les lire. Il en avait assez vraiment de recevoir, d'être harcelé finalement.
C'était du harcèlement.
Et on parle des lettres, mais il n'a pas envoyé que des lettres.
Et pas que des lettres, en fait, il envoyait tout et n'importe quoi, si j'ai bien compris. Oui. Est-ce qu'on peut donner 2-3 exemples de ce qui arrivait dans la boîte aux lettres de François Ier tous les matins ?
Des spécialités locales en fonction de là où était Charles Quint. On se souvient que, voilà, à un moment, il était en Espagne, il lui avait fait faire parvenir une tortilla.
Oui.
Une tortilla dans laquelle, a priori, il avait mis des ingrédients un peu saugrenus pour lui faire passer un message. La tortilla a été jetée, elle a été jetée au cochon.
Elle était immangeable de toute façon. Elle a mis 15 jours à faire le trajet, donc forcément. Et c'est pour ça aussi que François Ier n'avait aucun doute sur le fait que Charles Quint le détestait, puisque à chaque fois qu'il lui envoyait des mets ou des spécialités locales, eh bien, c'était périmé de toute façon. Donc pour François Ier, ça passait comme un affront, mais pour Charles Quint, pas forcément.
Je pense aussi au fait qu'il lui envoyait des pigeons voyageurs, mais sans lettres, sans rien.
Juste des pigeons.
Non, mais et puis voilà, et puis en fait, il y avait toujours, c'était toujours plus et toujours pour essayer de faire comprendre. Enfin, le seul message donc qui avait été décrypté jusqu'au 23 novembre dernier, c'était Charles Quint qui avait envoyé un caillou entouré de saucissons, voulant faire référence en fait à la pierre de Rosette qui avait servi à déchiffrer les hiéroglyphes. Mais en fait, c'était trop alambiqué. Et en fait, nous on l'a compris en étudiant, mais à plusieurs historiens. Et d'ailleurs, moi, je faisais partie de l'équipe justement qui essayait de déchiffrer les lettres. Enfin, j'avais ma propre équipe. Et d'ailleurs, je félicite les hommes et les femmes historiens et historiennes qui ont réussi à déchiffrer cette nouvelle lettre de Charles Quint. C'est un travail titanesque, de longue haleine.
Alors, justement, vous êtes spécialiste du sujet, vous l'évoquez. Vous avez avec vous...
Oui, c'est vrai.
Je ne sais pas, là, je le vois ici sur le studio, une bonne dizaine de lettres, voire plus. Et vous avez préparé un genre de petit jeu.
Oui, alors oui, vous allez voir, c'est assez saugrenu. Anne-Marie, Alexandre, Guillaume, vous pouvez jouer aussi. Même chez vous, auditrice, auditeur, vous pouvez écouter. J'ai là avec moi des lettres de Charles Quint et des lettres que j'ai moi-même composées en essayant d'imiter le style de Charles Quint. Donc vous allez devoir deviner.
Super.
Est-ce que c'est Charles ou est-ce que c'est Thierry ? Voilà, je vous propose de jouer à ça.
Parfait.
Vous me répondez Charles ou Thierry ?
Charles ou Thierry.
Très bien. Parfait, voilà, c'est un petit jeu. Alors, j'ai la première sous les yeux.
Vas-y.
Mais dis donc, qui voilà ? C'est moi, c'est Charles. Point.
Ça me paraît un peu trop compréhensible.
Moi, ça me paraît trop gros pour que ce soit écrit par la main de Charles Quint.
Oh ouais, je pense.
Et vous avez raison, c'était moi qui l'avais écrit.
Oui.
Mais alors, je vous lis celle dont je me suis inspiré. C'était « J'arriverai bientôt, bientôt je serai là, c'est moi Charles Quint ».
Ah oui, on comprend donc pourquoi François Ier a mobilisé tant de fois son armée pour rien finalement. Puisque,
exactement. Exactement.
Et parce que c'est presque une déclaration de guerre. Quand un dirigeant envoie ça à un autre, on s'attend à le voir débarquer avec toute son armée.
Tout à fait.
Et on sait ce que ça veut dire maintenant, ces lettres ?
Ah non, non.
Celles-ci n'ont pas été décryptées.
Non, il n'y en a qu'une qui a été décryptée.
Ah oui, non mais...
Comme je vous dis, il y a seulement l'histoire de la pierre de Rosette et la lettre qui vient d'être décryptée. Là, c'est des lettres... C'est encore un mystère. Donc, chez vous, vous pouvez commencer à réfléchir aussi. C'est un vrai casse-tête.
Appelez Thierry, d'ailleurs, si vous avez déchiffré une lettre.
Tout de suite. Hein. Alors... prochaine lettre, bouse.
Juste Bouze. Ça me semble être du charlequin,
ça.
Là, c'est du charlequin.
Oui, c'est du charlequin.
Ah, bah là, oui, oui.
C'est en effet une lettre de charlequin. Donc voilà, il y avait juste écrit Bouze, rien d'autre sur un petit bout de parchemin.
Un petit bout de parchemin, c'était même pas une lettre bien sérigraphiée.
Ah non, c'était un petit bout de parchemin. Il y avait son sceau quand même sur, quand sur même. La lettre. Mais...
Comme ça qu'on reconnaissait. Mais c'est vrai que c'était jamais vraiment les mêmes. Voilà, rien n'était. Il n'y avait pas de normes ou de format particulier de lettres, hein, effectivement.
Voilà. Donc très bien, là pour l'instant, presque un sans faute. Hein, vous débrouillez très bien. Attention, prochaine lettre. J'ai rêvé cette nuit, ou alors était-ce ce matin. Tiens donc, qui voilà ? C'est mon soldat préféré. Oh, mon soldat préféré, viens donc à moi. Viens donc à moi, mon soldat préféré.
On reconnaît. Alors, on reconnaît la patte au niveau de la répétition. Il aime bien répéter beaucoup de mots à la suite. Donc, je dirais Charles Quint.
C'est Charles, en effet. Ouais. Vous l'aviez aussi, vous, Anne-Marie ?
J'hésitais, c'est pas évident, mine de rien.
Non, c'est pas évident.
Au début, j'ai cru que c'était vous. Il y avait un petit côté un peu poétique. Je sais que vous écrivez un petit peu, Thierry, donc je me suis dit que ça pouvait être vous.
Mais non.
La répétition à la fin est flagrante.
Alors, une autre, enchaîne. Mais merde, à la fin, tu vas me répondre. François, bordel, que fais-tu ? Réponds-moi, ne comprends-tu pas si je t'écris ces mots ? La boule.
Ah ben alors là.
C'est clairement Charles Quint. C'est clairement Charles Quint. On sait, ça doit être une de ses dernières lettres adressées à François Ier, où on savait qu'il était très, très, très aigri, très énervé et très en colère contre le roi français. Donc oui, moi, je suis presque sûre que c'est Charles Quint.
Charles Quint, vous dites ? Oui. Charles, Thierry, vous dites ?
Moi, j'aurais dit Thierry, parce que je trouve ça très direct pour un message codé, à part le mot de conclusion.
Je me demande si c'est pas une lettre à votre fils.
Non, alors c'est Guillaume qui met le doigt dessus. En effet, donc c'est un piège, puisqu'il s'agit en effet d'une lettre de Charles, mais j'ai modifié le mot de la fin.
Ah.
Voilà, et en fait, le mot de la fin avec lequel signait finalement Charles Quint était le mot sopalin.
Sopalin,
oui. Voilà. Donc ce n'était pas entièrement la lettre de Charles Quint, j'avais juste repris le début. Donc voilà, c'était un petit piège. Voilà, donc voilà, ça nous fait une idée avec ce petit jeu de ce qui a été envoyé quand même à François Ier durant son règne.
Incompréhensible.
Comment réagit... Alors, on sait que François Ier réagit à ces lettres rapidement en les oubliant, tout simplement.
Oui, oui.
Parce que
il y a autre chose à faire. Hein.
Voilà, il a quand même un pays à diriger, mais côté Saint-Empire... est-ce qu'on sait que Charles Quint tient cette correspondance unidirectionnelle avec François Ier ?
On le sait et on a honte.
Et d'ailleurs, c'est ce qui va lui être reproché dans tous les pays dont il est empereur. C'est que plutôt que de s'occuper de ce Saint-Empire, il va préférer laisser la priorité à cette relation épistolaire à sens unique, comme vous l'avez dit, avec François Ier, pour François Ier, puisqu'il n'y a que lui qui lui écrira.
Ça lui prend du temps, parce qu'effectivement, comme je le disais, on a honte et plus personne ne veut envoyer les lettres. Il a envoyé tous ses pigeons, il n'y a plus de pigeons, on ne trouve plus de pigeons. Il est obligé de les envoyer lui-même, d'aller lui-même voir François Ier et lui donner les lettres
encapuchonné.
Il prend une fausse voix, enfin, c'est ridicule.
Il y a du coup des vestiges de cette époque-là, de cette sombre époque pour le Saint-Empire. Le château des Lettres en Autriche, qui est encore visitable aujourd'hui, le château d'où écrivait Charles Quint toutes ses lettres. C'est assez impressionnant comme endroit. Quand on y rentre à l'intérieur, il y a des écritures partout sur les murs. Ça a été laissé en état, donc faut imaginer à l'époque quand même des montagnes et des montagnes de papier, de parchemin, d'expériences faites avec de la nourriture. Là, aujourd'hui, il ne reste finalement que ce que le temps nous a laissé, c'est-à-dire les écritures sur les murs et quelque part les vestiges d'un Capharnaüm.
Oui.
Mais il faut l'imaginer, c'est quand même assez impressionnant de rentrer dans ce château.
Donc Charles Quint écrivait toutes ses missives uniquement depuis ce château.
Oui, tout à fait.
Et il avait quelque chose de particulier dans ce château. Pourquoi est-ce qu'il ne pouvait pas écrire des lettres
Je pense que c'est de là qu'il tirait son inspiration, finalement. C'était là où, en fait, il était très esselé lorsqu'il écrivait ses lettres. Ce n'était pas quelque chose qu'il écrivait comme ça entre deux batailles. Quand Charles Quint écrivait une lettre à François Ier, il y passait bien une semaine et il était seul dans ce château des lettres.
Est-ce qu'on peut le visiter, ce château ?
Oui, tout à fait.
Vous y êtes allé ?
Oui, j'y suis allée le mois dernier, justement. C'est effectivement un très, très beau château. En fait, il y a une partie musée aussi, où on peut lire des lettres adressées à François Ier de la part de Charles Quint. C'est très conceptuel. Oui.
J'ai entendu dire qu'ils avaient rajouté la tortilla de François Ier en.
Oui, ils ont fait une réplique
à la cantine.
Il y a effectivement un moulage de la tortilla de.
On peut. Ok.
Non, on peut également la déguster. Vous n'êtes pas passé par la cantine ?
Ah non. J'y suis allée uniquement l'après-midi, donc.
Ouais, on peut la déguster le midi à la cantine du château. Et moi j'y vais vraiment dès que j'ai besoin d'inspiration, parce que j'écris un peu. Et dès que j'ai besoin d'inspiration, oui, je me rends. Parce que oui, à l'époque, elle était décriée, cette écriture, on se moquait beaucoup de lui. Aujourd'hui, mes collègues historiens et historiennes viennent de décrypter une nouvelle lettre. Il y a une réelle profondeur, finalement, dans ces mots. Et ce n'était pas donné à tout le monde.
Et ça inspire beaucoup d'artistes, à la fois des artistes, des écrivains, des auteurs de textes, de poésie, de théâtre, que sais-je, mais aussi des peintres, des sculpteurs, des artistes du monde entier et de toutes les disciplines.
Pas plus tard que
l'artiste contemporain, l'art abstrait.
Récemment, cette banane qui a été scotchée à un mur et qui a été vendue une somme faramineuse, l'artiste a confié s'être inspiré de Charles Quint.
D'accord. Est-ce que c'est pour ça aussi qu'on voit autant d'équipes de recherche s'atteler à déchiffrer ces lettres ? Vous parlez de votre travail, qui ça fait maintenant une bonne quinzaine d'années que vous êtes dessus.
Oui, après, moi, je fais ça en amateur, hein, c'est parce que j'adore l'histoire. Voilà, mon vrai métier, je suis concentré sur d'autres choses. Mais c'est vrai que oui, c'est presque une passion.
C'est une passion, mais quel est l'enjeu à l'échelle, on va dire, de l'histoire, celle avec un grand I, d'aller déchiffrer comme ça ces lettres qu'on sait pourtant très conceptuelles et on n'en attend presque plus rien maintenant.
On n'en attend presque plus rien, mais il y a quand même un sacré mystère, c'est galvanisant. On se dit qu'est-ce qu'il a bien pu mettre là-dedans. Peut-être qu'on passe à côté de quelque chose de très gros, peut-être qu'on passe à côté d'un trésor, peut-être qu'on passe à côté de quelque chose qui aurait pu faire basculer l'histoire.
Ça nous permettrait de mieux comprendre aussi ces batailles, ces guerres, les directions qui ont été menées par le Saint-Empire à l'époque. Enfin, il y a beaucoup de choses à expliquer et peut-être que les réponses sont dans ces lettres.
Il n'y a pas que les chercheurs qui cherchent. Les charlequinistes sont voilà, c'est des groupes amateurs qui, comme vous pouvez l'être, Thierry.
Oui,
qui...
Je suis charlequiniste.
D'ailleurs, c'est l'association des charlequinistes qui a réhabilité la partie musée du château en Autriche.
Tout à fait.
Justement pour que l'œuvre, parce que pour beaucoup, Charles Quint est considéré comme un artiste fou, puisqu'on sait qu'il a fini complètement fou à la fin de sa vie à écrire une lettre par jour et à tenter de tous les jours faire le trajet d'Autriche jusqu'au château de François Ier. Enfin, c'était intenable comme rythme, évidemment, mais du coup, il est considéré vraiment par les charlequinistes comme un artiste incompris et fou. Et c'est pour ça qu'il y en a pas mal aujourd'hui qui cherchent à déchiffrer ses lettres, son œuvre, finalement.
Oui, mais puis il faut vraiment... Enfin, je vais insister sur ce que disait Anne-Marie. En effet, Charles Quint, à la fin, est devenu fou. Et c'est toute la tragédie de cette vie, de cet homme qui a été incompris jusqu'à la fin. Et qui allait jusqu'à écrire sur des morceaux de chair, de sa propre chair.
On peut peut-être finir sur ça, sur son chant du cygne, sur ce dernier message envoyé à François Ier.
Sur des lambeaux de peau.
Sur sa propre peau, il se fait tailler dans son lit, il est souffrant, il ne peut plus marcher. Mm. Il se taille un message sur sa propre peau et il fait demander à ce qu'on l'envoie lui-même à François Ier dans son lit. Donc le lit aussi est envoyé, le lit de mourant de Charles Quint.
La dépouille de Charles arrivera bien trop tard, enfin elle aura déjà commencé à pourrir un petit peu, donc le message n'aura jamais pu être lu par personne, mais on imagine bien la profondeur de ces mots.
Très bien, merci à vous Charles Quint, empereur ou artiste fou. C'était l'histoire avec un grand I, merci à nos invités, merci à vous qui nous avez écoutés. Vous retrouvez l'émission en podcast sur prune.net, toutes les plateformes d'écoute et sur Instagram, compte l'histoire avec un grand I. Rendez-vous la semaine prochaine pour étudier un nouveau fait historique.
C'était l'histoire avec un grand I. Chaque semaine, retrouvez la fine équipe de l'histoire avec un grand I afin de revisiter en improvisation totale un fait historique qui n'a jamais eu lieu.